If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Alors.
Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Julien Trouard. Ouais, clap clap clap, les gens cliquettent, les gens flic floup comme ça de voilà, regarde. Ah ouais. Où t'as ouvert la petite fenêtre renversée pour voir. Ouais, clic clic.
Attends,
clic,
wouhou,
clic clic clic, ouais.
Ouais, ah ouais.
Ah voilà, ah, ça me fait plaisir ça.
Bienvenue, ah, c'est chouette.
Bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode d'À bientôt de te revoir sur Zoom, parce que les circonstances faisant qu'on ne peut pas jusqu'à présent faire autrement. Enfin, je parle comme un keuf avec, j'ai envie de mettre des parties présents partout. Et je le précise parce que dans les archives, quand on réécoutera cet épisode, on se dira, oh là là, tu te souviens quand on faisait des émissions par Zoom et qu'on n'avait même pas le droit de se... pour lécher la pomme, c'était...
Alors que c'est ce qu'on ferait.
Bah, si on était in situ, en effet, c'est ce qu'on ferait. Je veux quand même prévenir les gens, l'audio guide qui va écouter cet épisode en audio. Ça va être un épisode avec Juliette Drouard, que je suis très heureuse de recevoir. Juliette qui est notamment à l'initiative d'un festival qui s'appelle « Sortir de l'hétérosexualité ». Donc,
ah oui.
Âme sensible.
Ne pas s'abstenir. Ne surtout pas s'abstenir. Restez.
Prenez un petit sac en papier comme dans l'avion. Et si vous sentez que vous faites une crise et que ce qui se dit vous dépasse ou vous insupporte ou que vous avez envie soudain de frapper les murs en disant non, tout ce qu'on m'a appris était donc faux. Ah, parce que Juliette, il faut préciser pour les gens qui ont le plaisir de te rencontrer aujourd'hui à l'écoute de cet épisode, que tu fais des petites recherches.
Ah, des petites recherches, bah oui, j'ai toujours été un peu curieux, ouais. Un peu anthropologue dans l'âme.
Comment ça a commencé ?
L'anthropologie. Ah oui, là on est au moment où j'arrête de t'écouter parler et où je trouve ça drôle et où c'est bien. L'anthropologie, je crois que ça a commencé très tôt. Je peux prendre un exemple, tu vois, mais il y a pas mal de personnes qui vont parler pour désigner en général, on va dire un mec PD, dire ah, il est très efféminé ou maniéré. Et je pense que très tôt, j'ai vu à quel point tout le monde était très, 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 très maniéré. Et mais dans un naturel déconcertant, je veux dire. Et avec cette même... Enfin, tu es maniéré. La plupart des gens le sont, je le suis. Tout le monde est maniéré en termes de genre et dans une complète décomplexion et sans absolument aucun recul. Donc, en fait, moi, ça m'a apparu assez tôt que j'étais dans cette espèce de théâtre un peu de l'absurde où tout le monde jouait l'homme et jouait la femme et... Et donc, ça m'a fait un peu flipper, je pense, très, très tôt. et que je me suis dit qu'en plus c'était pas des rôles qui étaient exactement équivalents et que et qu'il y avait une place que je convoitais peut-être plus qu'une autre. Et donc ouais, voilà, je pense que ça a commencé très tôt un petit peu comme ça.
Précise quelle place tu convoitais plus que l'autre.
Bah, je pensais que tout bêtement, tu vois, je pouvais être sujet en fait, et que ce serait c'est con, hein, mais je pensais que je pouvais être libre un peu de me mouvoir, libre de jouer, libre d'expérimenter mon corps, ou tout du moins qu'il soit pas atrophié, parce que c'est un peu le principe. Je pense que c'est une des principales, enfin, qu'on nous ampute très très tôt de pouvoir disposer pleinement de notre corps, d'appréhender la vitesse, les mouvements. Et on le voit souvent pour les personnes qui sont socialisées en tant que meuf, bah c'est vite, je sais pas, moi j'avais donné des cours vite fait de sport en fait, et on voit rapidement que bah, beaucoup de petites filles, en fait, à partir de 9-10 ans, c'est trop tard. C'est trop tard, il y a plein de facultés qui sont complètement shut down en fait. On peut pas calculer à quelle vitesse arrive quelque chose, on peut pas synchroniser son bras pour taper devant.
C'est fou.
Voilà, donc et c'est pareil en fait, c'est terrible de constater ça, parce que c'est quand même le voilà, notre corps, et on peut déjà plus en être en possession. Et ouais, donc je voulais pouvoir jouer un peu au milieu de la cour, quoi. C'était un peu ça, au lieu de rester autour sur le banc.
Courir très vite, arriver au milieu, faire une natte à quelqu'un, repartir, taper dans un ballon, faire une roue arrière, une rondade.
Exactement. Et voilà, parce que je savais faire ça. Mais au-delà de la place que je voulais occuper, je pense que ça s'est plutôt joué sur la place que je ne voulais pas occuper. Et je pense que c'est un peu toujours ça aujourd'hui. C'est plutôt. Bah, j'ai remarqué très vite aussi que j'étais objet d'abord de violences sexuelles à double titre, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant qui subit la domination par l'âge, donc des adultes ou de toute personne plus âgée, qui est quand même un truc qui inscrit vraiment la domination, je pense, dans les corps, et qui est très peu analysé, parce que ça obligerait tout un chacun en fait de se remettre en cause. C'est quand même la domination par l'âge. On a chacun a été une fois dominé et sera dominante. Donc, ouais. On est obligé de balayer un peu dans sa porte. Et donc, bref, tout ça veut dire que oui, c'était. Je voulais surtout ne pas être cet objet de violence.
D'accord. Donc, maintenant qu'on a sonné à la porte, qu'on s'est essuyé les pieds, qu'on nous a ouvert la porte, je vais poser une autre question. Tu dis, quand on est enfant, on est forcément dominé parce qu'on est, je mets des R guillemets, éduqué. D'accord. On doit obtenir une éducation de la part des adultes ou de ses parents, blablabla. Mais je pense, je me fais un peu l'avocat du diable, et je pense à toutes les mères qui nous écoutent et qui disent non, mais qui pourraient dire non, mais je veux bien ne pas faire de la domination auprès de mon enfant, mais enfin, il faut quand même que je m'en occupe H24, surtout que mon mari branle rien. Ça, c'est moi qui fais une digression, mais dis-moi, je pense qu'elle sera pas un propos.
Dans ta vie parallèle.
et comment, c'est quoi la solution transverse si une fois qu'on est parti du constat que ok, il y a une domination sur les enfants, qu'est-ce qu'on fait à la place, à part pas d'enfants,
leur taper dessus, qu'est-ce qu'on fait?
Ou leur dire non, va te coucher parce que j'ai décidé qu'il était 19h30 et va te coucher même s'il fait encore jour.
Non, parce que concrètement, il y a quand même un peu. Enfin, je sais pas, je vois deux gros points un peu dans ce que tu dis. Il y a donc ta question directe. Qu'est-ce qu'on fait quand on traite plus l'autre en tant qu'objet? Bah, je pense qu'en fait, on peut avoir la réponse à plein d'endroits différents, vu qu'on se la pose pour toute autre personne. Je veux dire, la manière dont on traite les enfants, si on voyait quelqu'un, et d'ailleurs, on voit souvent des personnes traitées comme ça, d'autres adultes dans la rue, à les tirer, à leur hurler dessus. Il y a, je sais plus, un truc genre 80% du contenu de verbal d'un adulte à un enfant qui est de la teneur de l'ordre. En fait, on réagirait. On dirait pas c'est OK. Faire la même chose entre deux adultes, soit on a peur, on réagit pas, mais en tout cas, on se voit qu'il se passe un truc pas normal, quoi. Et donc, c'est tellement naturalisé comme rapport qu'on est habitué à le voir, on fait rien, ça me semble normal. Donc, je pense qu'à ta question, bah, c'est très directement comment est-ce qu'on traite n'importe quelle autre personne en tant que sujet à nos côtés, en fait. Ça demande à, bah oui, le parler, respecter ses limites physiques, etc. Et après, le deuxième point que tu évoquais, c'est qu'évidemment, on n'est pas pris que dans un seul réseau de domination en termes de classe. Là, on parlait adulte-enfant, et tu évoquais évidemment la domination aussi de genre. Donc, la mère elle-même est prise dans un raid de domination. Mais je pense que c'est ça qui est important, c'est d'essayer de voir le plus de domination de classe possible, essayer de les décrypter pour revenir à soi et se dire, OK, ça veut dire que la qualité de lien que j'ai à l'autre et que toute autre personne a à moi dans la société dans laquelle on vit, c'est celle de la domination. Donc, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Comment est-ce que je peux instaurer un rapport solidaire et paritaire dans mon entourage immédiat? Parce que je suis impacté par la domination, c'est le seul lien que j'ai connu.
Mais comment
et
tu
ça,
fais...
c'est vrai pour tout le monde, je pense.
Comment tu fais une fois que tu as déterminé ça pour justement, ne pas devenir complètement starbé? Parce qu'une fois que tu commences à avoir la domination, tu finis par l'avoir partout. Et comment, même si dans ton cercle 1, tu arrives à délimiter quelle est ta place et comment ne pas, comment se soustraire à ces relations de domination, comment tu fais avec les cercles autour? Comment tu arrives à continuer à travailler, à interagir avec l'extérieur, etc.
C'est une grande question parce que effectivement le on
yes.
a une heure, t'as dit.
Bonne nuit. C'est cool, hein, merci Juliette. On applaudit Juliette.
Tout va être réglé. Là, je pense que je peux. Enfin, je me relie vachement à une analyse matérialiste, en fait. C'est que un des problèmes principaux, parce que toutes ces dominations s'emboîtent et, en tout cas, personnellement, je ne les hiérarchise pas. C'est-à-dire les dominations de classe, de race, de genre, de validisme, etc., font que les classes qui sont dominées ont évidemment peu de moyens matériels pour s'en sortir, ou moins de moyens matériels pour s'en sortir. Et le capitalisme est pris évidemment dans ce modèle et y participe de domination et exploite le travail gratuit ou sous-payé de différentes personnes, qu'elles soient effectivement en termes de genre, de race ou de classe. Et du coup, s'en sortir, ça veut dire aussi avoir les ressources souvent matérielles pour s'en sortir. Alors après, il y a effectivement des individus qui ont des trajectoires qui font qu'au-delà de ça, mettent en péril aussi leur existence matérielle pour prolonger leur lutte, leurs croyances et ont aussi certains gains en termes du coup émotionnels et de liens avec l'autre. Mais je pense qu'il y a vraiment cette question, elle est centrale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, psychologiquement, une personne va avoir du mal à prendre conscience de la violence qu'elle vit si elle n'a pas les moyens matériels de s'en sortir. Parce qu'en fait, ce serait psychologiquement trop coûteux de reconnaître à quel point elle est exploitée s'il n'y a pas de porte pour aller dehors. Donc pour moi, ça pose vraiment une question toute matérielle. Enfin, un exemple vraiment à la con, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes précaires à la retraite, de femmes seules précaires à la retraite. Donc effectivement, l'institution du couple hétérosexuel qui participe à construire des hommes et des femmes en miroir et à un rapport d'exploitation de l'un sur l'autre, fait que la prise de conscience de cette exploitation et si on décide d'en prendre acte, extrêmement coûteuse. Matériellement, ça veut dire s'exposer à la précarité. C'est donc effectivement, c'est difficile et c'est verrouillé. Et pour ma part, évidemment, c'est un coût matériel palpable. C'est-à-dire que depuis que je me suis rasé la tête et que j'ai commencé ma transition, je suis au chômage. C'est un exemple matériel parmi d'autres, en fait, de ce que ça coûte. Mais par contre, ce sur quoi je m'appuie, et je pense que c'est extrêmement important, c'est de rejoindre une communauté de pensée et de tisser des réseaux de solidarité, en fait, matérielle à l'intérieur de cette communauté. Alors certes, c'est une communauté qui aura forcément moins de moyens, et des moyens très limités.
Mais on se débrouille.
Mais en tout cas, très clairement, pour moi, il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de retour en arrière, tu vois, par rapport à ça.
Exactement. Ce qui est, c'est ça qui est fou, c'est que c'est à la fois très flippant de sortir du monde normé, mais à la fois très exaltant de sentir autour de toi une solidarité qui, en effet, bon, bah, t'as moins d'asperges vertes par semaine parce que c'est trop cher, mais à la place, t'as des discussions qui te font penser que peut-être cette grande mascarade que d'autres appellent la vie, c'est une mascarade parce que justement, on t'a dit quoi faire jusqu'ici et que si c'est toi qui décides, si tu te souviens que toi aussi, tu as des envies et des ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles si tu en trouves, bah, ça vaut le coup. Enfin, moi, je sais que toi, tu as participé à mon cheminement de me dire genre « Ah !» Ah, mais ça veut dire qu'on a le droit. On a le droit de dire ce qu'on pense et de penser quelque chose et d'articuler son discours et que c'est pas juste, ça suffit pas juste de dire ah mais c'est trop violent. Enfin, tu vois, oui, bien sûr, c'est violent, mais c'est violent parce que tout le monde nous met la tête sous l'eau dès qu'on a un avis. Jusqu'à temps qu'on dise « En fait, j'en ai rien à foutre que vous ne soyez pas d'accord avec moi. » Je ne sais pas si je me fais claire ou si je fais juste une diatribe.
juste, oh, bah, ça peut être une diatribe gratuite. Mais après, c'est vrai aussi que bah, je suis une personne blanche. Je suis issue d'une famille de classe moyenne, avec une famille qui ne m'a pas retiré son soutien matériel. Donc, parmi les personnes qui font des pas de côté, je peux faire ces pas de côté aussi matériels parce que et j'ai un background, j'ai fait des études, donc j'ai beaucoup plus de chance à l'intérieur de cette communauté aussi de m'en sortir en fait matériellement. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de coûts. Qui peut avoir les moyens de prise de conscience et qui peut les appliquer, tu vois, de manière pratique, quoi.
Ouais, mais le poivre sur une discussion avec n'importe qui du monde par défaut, il peut être mis par n'importe qui. Le poivre étant quand les gens se disent féministes, et je mets encore des R guillemets, ou alliés, de dire mais on s'en fout du féminisme théorique, tu vois, de dire moi je suis pour la parité, l'égalité. Nous, ce qu'on veut, c'est un féminisme matériel ou matérialiste, je sais pas c'est quoi le mot qui correspond le mieux, mais de montrer. Un alliage, de montrer que tu es là matériellement et de participer à aider. Donc, ça veut dire toi perdre un privilège, toi en tant que monde par défaut, perdre un privilège pour laisser plus de place aux gens qui demandent le privilège. Et en l'occurrence, demander le privilège, c'est déjà quelque chose qu'on nous a tellement pas appris à faire que ça peut déjà prendre une demi-vie, on est d'accord.
Et puis après, il y a quand même des formes enfin, très concrètes pour peu qu'on ait envie d'y réfléchir. Enfin, j'avais une discussion hier avec un ami qui me disait, moi, j'ai pris conscience et je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile la prise de conscience. Donc, on avait des éléments de discussion un peu de la teneur de ce qu'on vient de dire. Mais en fait, je lui disais, tu as pris conscience et ça te semble facile, mais je suis sûr que tu n'as pas vraiment pris conscience. C'est-à-dire que tu travailles, tu as ton mec qui ne travaille pas, donc qui n'a pas un travail estampillé qui doit être payé, donc qui n'est pas une position de dominant en l'occurrence. Et du coup, cette personne, comme elle est à la maison et qu'on invalide en fait toute activité ou tout travail, on l'invisibilise, du coup, cette personne va faire a priori le ménage, par exemple, que tu ne vas pas faire. Mmh. Et ça va sembler tout naturel et tout légitime que cette personne le fasse vu qu'elle est à la maison. Est-ce que tu as décidé de compter les heures de ménage, de les diviser par deux et de payer la personne avec qui tu vis à hauteur de ton taux horaire ? C'est tout. C'est tout. C'est... Donc il y a énormément de choses, je pense que.
Quand ton pote qui a dans la tête la chanson Ça fait mal Et ouais, bah oui, bien sûr, bah, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et le truc le plus marrant, c'est que n'importe quel débat sur n'importe quel sujet admis par la société, tout le monde serait tout à fait d'accord pour en parler, mais quand tu évoques ce genre de rétribution financière pour que tout le monde soit à parité et que ça soit pas juste théorique, les gens, on est d'accord, pètent un câble. Les gens pètent un câble, ils pètent un câble, ils capotent, quoi, comme dirait Charlie. Ils arrivent plus à penser droit, ils sont là genre « Mais moi, je suis pas comme ça !» Juste parce qu'ils ont l'impression qu'on leur fait un reproche. Comme si faire un reproche à quelqu'un, ça c'est aussi un autre truc qui... Enfin, quand tu es socialisée en tant que meuf, on passe ton temps à te faire des reproches, tu passes ton temps à t'excuser et à promettre que tu vas t'améliorer. Quand tu es socialisée en tant que gars, tu prends un reproche et carrément, t'as ta cape dans ton sac à dos que tu enfiles en disant genre, on m'a jamais parlé comme ça. Genre, c'est une catastrophe, quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont valorisés comme étant des léprechauns supérieurs, des sortes d'êtres, des Elohim, tu sais, le truc de... Comment ils s'appellent, cette secte-là, que j'adore Raël, c'est Raël, les Elohim. Ouais, ouais, c'est ça.
J'aime bien quand tu te fais des questions-réponses, parce que j'ai pas la moitié.
Parce que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de te mettre dans ma galère.
Non, mais tu vois, après, je pense que... Enfin, je préfère parler au jeu parce qu'en fait, encore une fois, j'en suis pas exempte. J'ai appris le lien à l'autre en termes de domination. Donc, ça suffit pas de dire, de pointer une domination qui nous arrange. Parce que, j'ai été socialisée en tant que meuf, machin. Donc, la domination, entre guillemets, qui m'arrange de pointer, c'est celle de genre. Mm-hmm. Et du coup, de dire vous, machin. Mais en fait, encore une fois, il y a énormément de différentes dominations de classe versus une autre. Et donc, c'est moi, qu'est-ce que je fais ? Qui est-ce que je domine ? C'est quoi ma position située ? Qui est-ce que je domine et qu'est-ce que je fais ? Et en fait, il y a un milliard de choses qui s'ouvrent en termes de possibilités à faire pour redistribuer. Enfin, tu vois, rendons l'argent, en fait. C'est d'essayer de redistribuer, d'essayer de reconnaître, d'essayer... Enfin, je reprends aussi... un autre exemple, mais de la conversation d'hier. Heureusement que je l'ai eu, tu vois, sinon je ne saurais pas quoi
dire. C'est clair, mais tu sais, tes anges gardiens, ils sont avec toi, hein, il ne faut pas douter.
Tu vois, à quel moment, en tant que thérapeute, je peux facturer, donc je sais combien ça coûte. À quel moment ma mère a facturé qui que ce soit dans la famille, tu vois, alors qu'elle a fait tout le boulot émotionnel et on sait ce que ça coûte, en fait, de ce boulot de psy qu'elle a fait et qu'elle continue à faire H24, c'est un truc qu'on prend vite comme acquis, comme naturel, comme donc, enfin, je prends un exemple parmi mille autres, où quand je suis avec un enfant dans la pièce, tout d'un coup, j'ai envie qu'il parte. Pourquoi on le met pas au lit et pourquoi cet enfant est là et pourquoi il veut participer, pourquoi ce serait il veut m'emmerder avec ses jeux. Enfin, tu vois, faut se regarder, quoi. faut se regarder agir, faut se regarder plaquer des stéréotypes qu'on a tous et tout ce qu'on attend. Et une fois qu'on a débusqué un peu les différents clivages, les étudier vraiment ses propres réactions. C'est pas, je pense qu'il faut être honnête, tu vois. Moi, en tant que blanc, j'essaie de m'éduquer, évidemment, sur les privilèges que j'ai, sur le racisme, etc. Mais ça doit pas rester à un niveau théorique. C'est-à-dire, si je rencontre une personne racisée, faut que je m'étudie avec une forme d'honnêteté, en fait. Qu'est-ce que je plaque sur cette personne ? Parce que c'est pas vrai qu'une fois qu'on a théorisé un truc, c'est bon, c'est faux. Bien sûr qu'on continue avec ces stéréotypes. Bien sûr qu'il faut continuer à les travailler, à porter charge dessus et à essayer matériellement de faire quelque chose.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
D'ailleurs, parle pas trop fort parce que t'es quand même chez tes parents, je crois. Et j'ai peur que ton père y rentre et qu'il dise « C'est quoi ce bordel-là ? C'est qui a fait psy gratuitement ?» Et je veux pas qu'il te foute dehors avant la fin de la mission parce que c'est trop intéressant.
Non, non, c'est bon, je me suis isolée dans une maison voisine.
Ah, ok, ah, d'accord.
J'ai pris les devants. Hein. J'ai pas initié un festival sortir de l'hétérosexualité pour parler sur une émission avec toi dans la famille nucléaire. J'aurais peur de pas avoir à souper.
C'est clair.
Ce serait un peu la merde.
Les théoriciens de la théorie. Comme je disais, il faut absolument se soustraire de la famille. Juliette, on mange.
Ouais, c'est ça.
On a déjà eu pas mal de discussions sur. Tu parles de thérapie. Sur pourquoi une thérapie c'est payant et pourquoi c'est un peu une arnaque que ça soit payant, à part le fait que toi en tant que thérapeute tu dois vivre et que tous les thérapeutes qui nous reçoivent, d'ailleurs j'embrasse ma psy, à part le fait qu'elles doivent vivre, pourquoi c'est une arnaque de dire non mais il faut que ça soit un peu cher, il faut qu'il y ait de l'argent qui traverse, parce que en vrai si tu fais une thérapie, enfin ça veut dire que ça bloque un tas de gens qui n'ont pas l'argent par semaine pour aller en thérapie et ils méritent pas moins de parler de leurs rêves et de leurs désirs enfouis, tu vois.
Donc... En tout cas, ce que je disais juste, c'était que je ne crois pas qu'on soit investi ou pas dans une thérapie parce qu'on met de l'argent sur la table. A fortiori, si tu as besoin de parler des abus sexuels que tu as vécu dans l'enfance pour essayer de te désenrouler de cette question-là et de désilencier ce qui s'est passé, je veux dire, les bienfaits, ils seront palpables. Tu n'as pas besoin de payer 50 balles par semaine pour avoir envie d'y retourner ou envie de faire les choses. Donc, pour moi, c'est pas. Je disais juste que c'est pas. C'est juste que j'ai besoin d'en vivre, c'est tout.
Ouais, mais c'est...
Après, pas besoin de plaquer une théorie comme quoi ce serait l'investissement suprême pour que la personne participe aux doses, tu vois, c'est tout.
C'est encore de la domination. C'est infantilisant de te faire croire à une sorte de fable où il y a un échange monétaire et du coup, ça a plus de valeur. C'est une fable capitaliste.
C'est une fable capitaliste, mais qui vaut sur absolument tout. Enfin, je veux dire, dire que le travail payé, c'est celui de conceptualiser un brumisateur de fromage. Je veux dire, c'est plutôt que de dire qu'une heure de marche à l'air libre, ça pourrait pas être payé. Enfin, c'est complètement fou en soi. C'est pas. Donc oui, il n'y a pas besoin de. Enfin, de trouver cette justification-là qui, comme tu le disais, participe à d'autres formes de domination ou d'infantilisation ou de recherche de légitimité qui, en fait, si tu fais un travail efficace pour moi en thérapie qui se fonde sur justement la politisation, bah, y a pas besoin qu'on paye. Hein, de dire que l'investissement est proportionnel au fait qu'on paye.
Ouais, ouais. À propos de travail, de thérapie et de politisation, je fais jamais l'actu de mes invités, mais en l'occurrence, là, il y a des gens qui demandent sur la conversation. Parce que tu sais, je ne sais pas si tu es au courant, mais les auditeuristes de À bientôt te revoir adorent broncher. Donc, ils sont tout le temps en train de broncher pour une raison ou pour une autre. C'est comme ça. C'est moi qui les ai éduqués, donc je peux m'en prendre qu'à moi. Tu vois, j'ai pas fait une éducation à la dure, à base de domination, blablabla. Et donc là, on me demandait plus haut si tu pouvais parler un peu du concept de sortir d'hétérosexualité. Pas du concept en lui-même, hein, mais du festival et de pourquoi, ce qu'il y avait à l'intérieur. Est-ce que tu avais appris notamment sur la dernière édition qui s'est passée en septembre l'année dernière.
Yes. Il y avait une
tu vois, regarde, excuse-moi, il parle en caps lock, on participe, c'est pas pareil, merde.
Mais, on prend jamais.
Mais vous vous calmez, quoi. Vraiment, je vous jure. Je devrais leur jeter des petits cailloux si on était en face. Donc vas-y, excuse-moi.
Il y avait une question sur mon signe astrologique, mais bon, je vois que tu censures et qu'il y a des choses intéressantes.
Non, mais parce que si on commence là-dessus, ça va être trop long.
On peut garder sur la fin quand je serai à mon troisième verre sur l'astro. Okay, quand tu vois que je faiblis un peu, on balance là-dessus, d'accord?
Ok, ça va. Bon. La censure, c'est mal. Oh, il m'énerve, je te jure. Il m'insupporte. Ok. Donc, ce faisant.
Alors... Déjà, d'une, je me permets de préciser que j'ai un blog sur Mediapart où j'ai écrit un article qui s'appelle « Une meilleure retraite pour sortir de l'hétérosexualité ». Et je me permets de dire ça parce que je pense que ce sera beaucoup plus ordonné et construit que là, ce que je vais dire. Mais en gros, l'idée, c'était de faire apparaître la réalité qui est que l'hétérosexualité est un construit et non pas une forme de nature dans le fait qu'elle soit majoritaire et que ce soit la norme. C'est une norme qui, comme toute norme, est construite et donc qui a des objectifs et des vocations de domination, parce qu'encore une fois, on est dans une société qui nous lie les uns les autres que en termes de dominant-dominé. On n'a pas appris autre chose. Donc toute empreinte qu'on va laisser, que ce soit une empreinte culturelle, et là je ne parle pas de contre-culture, mais l'empreinte culturelle, les empreintes normatives, tout type de contenu, sont faits pour à la fois représenter cette domination et la véhiculer, la reproduire. Et donc, l'hétérosexualité, du coup, on s'est penché sur différents volets, sur à quoi ça sert, tu vois. Donc, déjà, d'une, on s'est penché sur le volet de pour qu'il y ait du sexisme, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes bien distincts. Il faut déjà réussir à faire deux groupes. Et en fait, malgré ce qu'on pourrait penser, parce qu'on est tellement habitué à voir ça comme naturel, c'est pas si facile de constituer ces deux groupes, parce qu'on se ressemble vachement. Il n'y a pas un sexe biologique, il y a des quantités de sexes biologiques à différents niveaux, déjà, pour parler du corps,
C'est comme si on nous avait mis dans deux équipes avec des chasubles jaune or et jaune tournesol.
Exactement. Déjà, c'était très, très compliqué. Parce qu'encore une fois, biologiquement, il y a mille formes de corporalité qu'on essaye de trier. Alors, tant bien que mal, parce que dans la réalité, ça marche pas très bien. Mais en tout cas, dans les représentations qu'on en a, c'est-à-dire de toutes les images par lesquelles on est abreuvé, là, ça marche très bien. Il y a toujours deux groupes très identifiables, très distincts. Donc, biologiquement, c'était compliqué parce que, encore une fois, il n'y a pas deux sexes. Que ce soit en termes chromosomiques, gonadales, hormonales, il y a énormément de variations et très peu de choses qui sont alignées. Et évidemment, en termes de genre, ce avec quoi on est plus familier, on va dire tous les comportements, il n'y a rien de donné. Bon, ça, cette idée chemine un peu. Pour ce qui est de la biologie, ce n'est pas gagné, mais sur le terme des comportements, ça chemine. Donc, pour qu'il y ait sexisme, pour qu'il y ait une classe de dominants et de dominés, il fallait bien qu'on constitue ces deux équipes avec des chasubles très différents, comme tu dis. Donc, l'hétérosexualité, ça participe énormément à construire ces deux équipes parce qu'on va mettre en miroir inversé deux personnes dont la norme est ce qu'on est censé envier et on va dire, on a des rétributions sociales quand on est en couple et machin. Hein.
Et c'est de rouge à lèvres et on nous offre des cadeaux et une rose le 14 février.
Exactement.
Donc, ça, c'est vraiment une chance.
Donc, ces personnes vont agir en miroir inversé. Donc, ça permet de reproduire cette idée qu'il y a une différence fondamentale de comportement, de biologie, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand il y a des groupes de meufs qui se réunissent pour des raisons féministes, X ou Y, qui peuvent avoir des orientations sexuelles hétéro, peu importe, on voit que les termes de genre changent. C'est-à-dire que les personnes vont avoir beaucoup plus de licence pour aller voyager dans le genre, changer de coupe de cheveux, de vêtements. Tout d'un coup, les choses se lissent un peu. Donc l'institution, on va dire, hétérosexuelle du couple participe à créer cette différenciation de deux équipes pour ensuite permettre le sexisme. Donc il y a ça, et ensuite l'hétérosexualité, ça sert aussi au système capitaliste. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir n'importe quelle modalité pour habiter, pour élever des enfants, pour reproduire. Enfin, rien ne dit sur le papier, il faut que ce soit un homme et une femme, ce qui d'ailleurs est plutôt absurde en soi, parce que ça veut dire, enfin absurde, plutôt violent en soi, vu que ça veut dire, en tant que dominé sur cette partie-là, tu vas passer toute ta vie avec un dominant sur cette vision-là. Donc c'est un peu contradictoire des fois dans les termes. Et donc ça participe du capitalisme comment ? Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet l'exploitation du travail non payé de la femme. Encore une fois, le capitalisme n'a jamais fonctionné économiquement, n'a jamais pourvu à ses besoins, ça n'a jamais été un modèle pérenne. C'est construit en même temps que l'esclavage, en même temps que l'exploitation du travail gratuit des femmes, etc. Donc l'hétérosexualité permet ça.
On ne devient pas riche n'importe comment. Il faut bien économiser quelque part.
Exactement. C'est exactement ça l'idée. Donc, le festival traitait de toutes ces questions-là. et pas du tout de ce qu'on appelle l'orientation sexuelle, qui finalement n'existe pas. C'est plutôt une sexualité orientée dont on devrait parler. Donc, on s'en fout complètement de qui couche avec qui. Si c'était ça le problème, il n'y aurait pas de problème, tu vois. Mais c'est dans la structure de comment on habite, comment on produit et qu'est-ce qu'on performe et reproduit en termes de domination qu'on a essayé d'analyser ce système-là, en fait. Donc c'est et par ailleurs, l'expression « sortir de l'hétérosexualité », je l'aime beaucoup parce que pour moi, elle vient justement contrecarrer cette idée du coming out. C'est-à-dire le coming out, moi, je n'ai jamais voulu le faire, j'ai toujours trouvé ça révoltant. Ça veut dire auprès de personnes qui sont la norme et dont, dans nos sociétés occidentales, pour des raisons d'ailleurs racistes, on instrumentalise cette tolérance à l'homosexualité, on va chercher cette validation, on peut essuyer une pluie de merde, mais c'est normal qu'ils ne soient pas contents, tu comprends, machin. Ils ont plutôt bien réagi. Mais ça veut dire quoi, en fait? Donc, on doit présenter patte blanche pour avoir cette absolution de l'hétérosexualité.
Ouais, ouais.
Et en fait, pour moi, c'est en fait, je vous emmerde. Mais alors,
ouais, ouais. Oui.
Je suis sorti de l'hétérosexualité et j'en suis très, très fier. J'en suis pas fier sur un point de vue d'orientation sexuelle parce qu'encore une fois, on n'en a rien à foutre. J'en suis très fier politiquement parce que je veux essayer de perturber les modalités de production capitaliste, les modalités de production de deux équipes sexuées alignées avec leur genre. Et je vais essayer de réfléchir à autre chose en termes de communauté, de comment on habite, comment on produit, qui on est.
Ouais. Comment on écoute, qui on écoute, est-ce qu'on ne fait pas confiance à son... Enfin, ça, c'est un peu un truc qui... Je ne sais pas si ça te... Je sais que oui, mais je ne sais pas à quel point tu le vis. Faire confiance à son intuition, parce qu'on la brime énormément. Et je t'ai déjà parlé de mon projet d'école quand j'aurais fait le million d'ouvrir une école et qu'il y aurait des cours d'énergie et des cours d'intuition. Et je trouve ça fou à quel point c'est deux notions qui sont vraiment brimées à tout jamais, tu vois, c'est quasiment un truc, encore une fois, je mets les air guillemets, de bonne femme, de dire ah non, je le sens pas ou je la sens pas, ouais, j'avais une intuition que ça allait mal se passer, oh arrête, c'est bon là, tu vois. Mais c'est incroyable à quel point, quand tu fais confiance à ça, et que tu crois qu'on n'entend pas que tu fais une machine derrière, Juliette.
Oh merde, je suis désolée, mais c'est pas ma machine, en fait. Tu vois, sinon, je me permettrais de l'interrompre. J'ai déjà pris mes marques, j'ai déjà pris la bouteille de Negrita dans le truc. À un moment donné, il faut que j'arrête de faire chier, tu vois.
Mais bon, tout ça pour dire que je trouve ça fou à quel point, depuis que je me familiarise avec les concepts que toi, tu développes, notamment, en lesquels tu crois et que tu portes, je trouve ça fou à quel point ça devient de plus en plus facile quand t'es aligné avec ton centre à toi de faire confiance en son intuition, de se dire bah non, je veux pas, en fait. Et c'est fou à quel point aussi ça dérange le monde par défaut, encore une fois, quand tu dis je vais respecter, ça c'est un truc aussi, je continue de parler de Charlie, je crois qu'elle est là sur le live en plus, mais je vais respecter ce que je ressens. Et quand moi j'ai commencé à le faire autour de moi, les gens m'ont rionné en disant attends, tu vas aller contre genre la vie générale, tu vas aller contre le bon sens du monde par défaut. Donc ça veut dire être indépendante, ça veut dire négocier ces trucs à la con, hein, mais négocier ses salaires, etc. Et tu vois, oser de parler d'argent, enfin, c'est des trucs vraiment terre à terre, mais j'essaye de trouver des exemples, pas que l'énergie et l'intuition, parce que c'est un peu, on dirait que j'ai une fée tatouée sur l'épaule. Et,
Non, mais tu touches un point hyper important, c'est-à-dire... la domination par le verbe, en fait. Tout ce qui est constitué en tant que savoir, on va dire, socialement validé, passe par la théorie, enfin une épistémologie, en fait, de l'abstraction de soi, de quitter ses émotions.
Je ne sais pas ce que c'est épistémologie.
Bah, c'est tout ce qui constitue en gros la méthodologie, on va dire, de recherche scientifique et tout ce qui, on va dire, par la science instituée, mais de manière large, ça peut, tout type de savoir en fait développé dans notre société qui sont validés, le sont avec une codification sur l'abstraction de soi. On est censé être abstrait de soi. Donc, c'est déjà en soi une des dominations primaires. C'est-à-dire se déconnecter de ses émotions, c'est ça qui est validé en tant que savoir. Et donc, ça inscrit vraiment, c'est quoi nos rapports avec les autres ? Nos rapports avec les autres, ça veut dire ne pas être connecté à ses émotions. Donc, comment on peut être connecté aux émotions de l'autre et ne pas les soumettre et les traiter comme des objets si le but du game, c'est de s'abstraire de ses propres émotions. Donc, en miroir, évidemment qu'on ne voit plus l'autre, c'est plus possible. Donc, évidemment que cette épistémologie, elle est contestée par énormément de personnes militantes dans les différents champs, on va dire, de féminisme intersectionnel. Mais je pense que c'est un petit peu ce que tu dis, c'est qu'on apprend à être coupé de ça et on apprend à ne pas communiquer avec l'autre sur le registre de l'émotion. Et je pense que c'est extrêmement... Enfin, on pourrait se poser la question un petit peu métaphysique. Est-ce que l'invention du verbe tel qu'on le connaît, c'est en soi l'invention aussi de la domination ? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est intéressant de se poser cette question-là. Et en tout cas, de revenir, comme tu le disais, à des formes de s'interroger, ce serait quoi une communication émotionnelle avec l'autre ? Qu'est-ce qui passe par le verbe ? Qu'est-ce qui ne passe pas par le verbe ? Et si je dois me positionner sur le verbe, comment je peux me situer en tant que sujet, savoir que je ne suis pas objectif parce que je ne le suis jamais, situer ma subjectivité, dire en quoi ça me touche, et pas que ça invalide mes recherches, mais que ça les valide. Parce que c'est ça aussi le but du savoir dominant, c'est de faire croire qu'on a une position objective et qu'on ne fait pas de la politique, alors qu'on fait toujours de la politique quand on parle de savoir.
Bien sûr. Et je pense qu'une des premières clés pour les gens qui sont là, genre, je sais pas comment faire pour faire comme ça, là, comme vous faites là en ce moment, là. Je pense que tu me dis si t'es d'accord, on peut débattre après, il n'y a pas de problème, tu me connais. Mais je pense que la première chose, c'est d'essayer d'articuler son discours. Et ça commence par avoir deux, trois éléments de langage, limite que tu apprends en autodictée pour entamer un débat et commencer à te sentir à l'aise avec, si on veut jouer le jeu, avec des mots qui ont l'air savants, qui ne le sont pas, mais qui ont l'air savants pour que la personne en face qui a une grande gueule, en gros, se dise « Oula, à qui j'ai affaire ?» là, tu vois, que le rapport de domination, il soit un peu plus égalitaire, parce que toi aussi, tu peux avoir des éléments de langage avec des mots que tu... Voilà. Et la deuxième chose, ça, c'est juste, je ne conseille pas aux gens de faire des combats de regard pendant les débats, mais je pense que si on entame ce chemin vers l'intuition et l'énergie, c'est de, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, au lieu de t'énerver au machin, essayer de le regarder trop longtemps sans parler. Et je pense que ça peut vraiment déstabiliser beaucoup plus que prévu. et encore une fois, emmener sur un chemin d'être égal quand on débat avec quelqu'un. Qu'est-ce que t'en penses ?
Sur le fait de chercher le eye contact ?
En fait, quand tu parles avec quelqu'un, t'as tendance à vouloir dire plein de trucs, machin, nani, mais je pense que justement, ça vaudrait le coup de slow down le débat et de plutôt prendre le temps de regarder les gens, parce que les gens, ils ont tellement pas l'habitude de se faire regarder, tu vois ? Mais pas regarder comme Brandy et Monica dans le clip de The Boy Is Mine, tu vois ? Avec un sourcil en l'air et l'index pointé en ondulant la tête. Juste regarder une seconde de plus que ce qu'on aurait fait normalement pour jauger l'énergie de la personne qu'on a en face. Est-ce qu'elle est vraiment en train d'essayer de me casser les notes ? Est-ce que en fait, elle veut juste voir si je m'intéresse à elle ? Blablabla. OK ?
Ça, je sais pas. Évidemment, j'entends les choses avec mon prisme, mais un peu différemment de comme tu le dis toi, mais en tout cas je me pose toujours la question avec une personne avec laquelle je parle et je tisse un lien, qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais en fait, c'est quoi le but de cette discussion, qu'est-ce que Mais parce, enfin, c'est des, pour moi, c'est des réflexions un petit peu infinies parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que j'ai pas eu les outils en fait d'instaurer un lien à l'autre qui soit d'abord dans les émotions. Et c'est ça souvent que je me demande. C'est ok, je parle avec quelqu'un, mais est-ce que c'est réellement important quand on débat théoriquement? Qu'est-ce qui me nourrit en fait? Qu'est-ce qui fait que finalement je passe un bon moment avec cette personne? Est-ce que j'ai ressenti des émotions? Est-ce que ça a apaisé mon corps? Est-ce que je cherche à dominer cette personne en employant tel ou tel vocabulaire? Quels sont les canaux de cette personne qui sont disponibles?
Ouais.
Pas physique ou verbe. Enfin, tu vois, c'est pour moi, c'est vraiment aussi ça, essayer et c'est que des tentatives qui souvent sont des échecs, mais essayer de m'interroger en permanence sur ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce que en réalité je voudrais chercher. Et j'essaye en tout cas vraiment aujourd'hui de rechercher en termes émotionnels, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure un petit peu, de me refonder en moi, dans mon corps, quand je suis avec cette personne, comment je me sens physiquement, et en fait qu'est-ce que j'attends d'un lien
c'est
à l'autre
clair.
J'attends quoi de, bah, de rire
d'avoir les jambes en miel quoi. Ça, c'est vrai que si on, en fait, on devrait commencer à faire cet exercice quand on raccroche après, là. Bon, c'est pas tellement la bonne période parce qu'on voit beaucoup moins de gens qu'avant, bien sûr, mais dès qu'on croise quelqu'un, il faudrait qu'on se visualise en fermant les yeux dans un hypermarché et qu'on se dise, OK, qu'est-ce que ça me provoque? Dans quel rayon je suis et à quoi je m'assimile quand je parle avec cette personne? Est-ce que je suis un thé Lipton le jaune là, qui n'est pas assez cher? Est-ce que je suis une baguette avec les trous des picots du four en dessous? Est-ce que je suis un débouche c'est quoi le mot quand on se lave? Évier. Est-ce que je suis un débouché? Je pense que ça sera un bon exercice. Ah, il y a quelqu'un qui dit « rangée bio, tapenade goûteuse ». D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ce que les gens ils ont l'impression de nous quand ils nous écoutent, mais j'aimerais bien savoir. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si tu as vu plus haut la question, parce qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu d'à bientôt de te revoir, hein, parce que là, oui. On est là, on fait de la politique politicienne, mais en attendant,
mais bon.
Hein, voilà, les vraies questions ne sont pas répondues. Il y en avait une plus haut qui demandait si tu préfères avoir froid aux pieds toute ta vie ou chaud et un peu mouillé dans tes chaussons.
Attends, froid aux pieds toute ma vie ou
chaud au bout des pieds et un peu mouillé comme dans des chaussons.
Ça dépend du degré d'humidité.
De l'extérieur?
Tu dis chaud et un peu mouillé, ça dépend. Humide, c'est pas agréable, j'aime pas l'humide.
C'est ça, c'est humide. Et tu sais, comme la laine d'un chien en fait. Est-ce qu'au bout de tes pieds, tu veux la laine d'un chien tout le temps?
Non, mais de toute façon, j'ai déjà froid aux pieds, donc je pense que c'est peut-être, tu vois, je suis un peu. Je suis courageux, mais pas téméraire, tu vois. J'ai pas envie de tester une autre condition que la mienne avec laquelle j'arrive à marcher.
Est-ce que c'était la devise d'un roi, ça, d'ailleurs, ou pas? Courageux, mais pas téméraire. Enfin, cela dit, serait la pire devise. Genre, oh là, et oh, attends. Non, 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 non. est-ce que tu crois que les rois, les reines, est-ce que tu crois que quand ils savaient qu'ils étaient genre pas beaux selon la norme de l'époque, ils donnaient un billet au peintre pour qu'il les beaucossifie?
Je sais pas du tout, SNL. Ouais. Je sais pas du tout. Tu me laisses, tu vois. Mais il faut savoir ne pas avoir d'avis. Et je sais que par contre, c'est un peu ton rayon, ça. Aliénor d'Aquitaine, là, c'est pas
ah ça, oui, Aliénor d'Aquitaine, ouais, je l'adore, putain, ouais. Tellement génial.
Bah, oui.
Mais en fait, des fois, je me dis, il y a des tableaux de rois ou de reines qui sont tellement genre, mais ils ont des têtes, mais c'est pas possible, vraiment. Ils sont, mais c'est pas possible. Et donc, je me dis, putain, mais si le peintre, il a fait cette tête au roi ou à la reine, sérieux, quelle tête ils avaient en vrai, quoi?
Voilà. Bah ouais, je sais pas. Écoute, quand t'es peut-être déjà un peu dieu, est-ce que tu vois, être jolie, c'est le pouvoir du faible, hein?
Oh. Oui. Bah bien sûr, ma question, elle devient politique et elle est.
Du dominé. Et allez, on y retourne.
Je n'ai rien vu venir. Moi, j'étais là.
Je re-rentrais par la fenêtre.
Non, mais de ouf.
Bim.
C'est la truffe au vent, t'as un golden dans un champ.
C'est ça, hein, tu t'es relâché un peu, il était 45 et je t'ai vu partir. Tu croyais qu'on allait finir en mode light, moi aussi. Et si je peux me permettre, je vois une question endo, point d'interrogation.
Ouais. Ah oui, endo.
Et ça me semble un peu important quand même, ça j'aimerais bien parler.
Allez, en plus j'ai teasé là-dessus sur mon live précédent pour dire aux gens que c'était important de venir t'écouter. Donc, endo est l'abréviation de endométriose. Pourquoi cette personne sur le live dit endo, point d'interrogation ? Parce que il s'avère que tu as travaillé et que tu as notamment publié sur ton blog Mediapart Juliette Drouard avec un T.
Avec un T et un D.
Et un D. un article qui fait le lien entre la prise de testostérone et la baisse de l'endométriose.
Ouais. Celui-ci est de manière générale entre la testostérone et la douleur, et la testostérone comme un anti-douleur.
On commence, on commence peut-être par dire qu'on avait une discussion sur la pratique de la boxe l'autre jour, et tu m'as dit que avant de commencer à prendre de la testostérone, tu faisais une heure de boxe et tu étais en galère totale. Et après avoir commencé la testostérone, une heure de boxe, ça te paraissait comme, en gros, aller faire 50 pas. Ouais, voilà. Et alors ça, moi, je suis blastée. Je suis...
peut-être pour reprendre vite fait, très vite, encore une fois, sur le blog, c'est beaucoup plus ordonné et plus abouti, mais pour reprendre vite fait les bases, et on l'a déjà commencé tout à l'heure, le but, c'est d'avoir deux équipes avec deux chasubles très différents. Donc, le but, c'est de ne surtout pas dire qu'il y a une évidente continuité entre tout le monde. Et l'évidente continuité, elle est que toute personne produit de la testostérone et qu'à partir de la testostérone sont produites les hormones que toute personne produit, à savoir les œstrogènes et la progestérone. Et donc, cette histoire de « il y a deux camps avec deux systèmes hormonaux très différents », elle est complètement fausse. Elle est complètement fausse. Ça n'existe pas. Il faut bien comprendre que la testo, c'est l'hormone mère.
Ouais, c'est genre la mère de vinaigre, quoi.
Voilà. Et donc, l'idée, toujours ce grand plan de sexisme, de différencier deux corps, ça a notamment induit qu'on ne veut pas donner de la testostérone aux femmes. Très dangereux comme idée, parce qu'on pourrait s'apercevoir déjà qu'on a le même système hormonal que tout le monde, et que de deux, en plus, peut-être, comme d'ailleurs beaucoup de personnes assignées femmes à la naissance, ont des taux de testostérone variés et qui font que, d'apparence, ça rapproche beaucoup les corporalités. Et ce qu'on veut bien éviter, c'est surtout que les corporalités, ça puisse se mélanger, etc., comme si le genre, c'était pas suffisant, machin. Donc, bref, malgré le fait que beaucoup de personnes soient au courant que la testostérone est un antidouleur naturel, renforce en tout cas la libido, la prise de muscles, etc., etc. Et j'en passe, on ne veut pas en donner aux meufs. Et on sait ça depuis très, 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 très longtemps. Par contre, aucun souci pour asperger les personnes assignées femmes à la naissance d'hormones dites féminines. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. C'est la molécule chimiquement la plus produite au monde. Donc, il faut savoir que déjà, on part de corporalités qui sont sur un continuum, mais qu'en plus, on s'acharne à faire en sorte que de produire deux camps entre l'extermination des personnes intersexes et leur mutilation toujours à l'heure actuelle et le renforcement de ces binarités parce qu'on arrose d'hormones. De la même manière, on empêche le mouvement des femmes, le sport des femmes, etc., etc., alors que ça produit de la testostérone. Le fait aussi d'être opprimé, d'être stressé, diminue les niveaux de testo. Donc, tout ça combiné, quand les personnes assignées femmes à la naissance sont dominées, font qu'effectivement, on a en plus une amplification de cette binarité. Et pour revenir sur le lien à la testo, mais de manière plus générale, en fait, même s'il y a très très peu d'études dessus, on peut remarquer qu'aussi les douleurs, par exemple, ressenties par les personnes qui sont majoritairement des femmes, les douleurs fibromyalgiques, sont atténuées lors des pics de testostérone. Et en gros, moi, j'ai commencé à prendre de la testo pour transitionner, mais aussi parce que j'avais en tête tout ça et que je me disais, bah, ce serait peut-être pas mal, en fait, pour mon corps d'en prendre à petite dose et de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, en dehors de ma meilleure condition physique et ma libido et le fait que mon clit est augmenté et que c'est quand même assez cool, qu'est-ce que j'ai constaté ? C'est que je n'avais plus de douleur de règles. Moi qui me pliais, qui était plié en quatre quand j'avais mes règles, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de réfléchir aussi d'une manière, enfin celle que je viens de, c'est-à-dire d'une manière politique aussi, en réfléchissant culturellement à ce que ça voulait dire, de mettre en avant que c'était un traitement possible de l'endométriose et peut-être de plein d'autres choses dites pathologie, enfin encore fallait-il que ce soit pas une condition naturelle pour la femme d'avoir mal, mais d'autres choses dites pathologiques, de se rendre compte que bah, peut-être déjà on binarise les corps et que ça a peut-être des effets néfastes en fait sur les corps de les binariser autant et qu'en plus il y a des solutions possibles hormonales. Et donc voilà, depuis effectivement on a mené cette expérience notamment avec Fanny Godbarge qui anime le compte cyclique. Et puis d'autres personnes qui avaient envie en fait d'essayer de prendre de la thé pour leur douleur d'endo et bah, qui n'ont plus de douleur tout simplement, ou alors de SPM, c'est-à-dire de syndrome prémenstruel quand on est en DEP, qu'on a envie de se foutre en l'air, ouais. etc. Et sauf que si la communauté scientifique avait trouvé un traitement miraculeux à des milliards de personnes qui souffraient, ce serait tout de suite médiatisé. Mais par contre, si ça remet en cause la politique de binarisation des corps, là, par contre, on n'en parle pas. Donc, moi, je reçois énormément de messages en DM qui me demandent « Mais comment je me procure de la thé ?» Eh bien, en fait, tu peux pas. Tu n'as pas le droit parce que tu es une meuf. Et donc, pour moi, le but, c'est pour ça aussi que je tenais à en parler, c'est qu'à un moment donné, il n'y a que la pression de la société civile de dire « On sait ». Parce que la seule chose aujourd'hui que je peux dire aux gens, c'est amenez-vous avec le matos, que ce soit la vidéo qui a été faite sur Vice sur ce sujet-là, que ce soit l'article de blog, allez la présenter à vos gynécos, allez la présenter aux médecins, parlez-en autour de vous, parce qu'il n'y a que cette méthode de pression-là qui, à un moment donné, fera que peut-être ça va être pris en compte. Mais c'est à la fois extrêmement subversif et extrêmement efficace. Et ce qui est intéressant, c'est que la première piste qui avait été étudiée pour l'endo et qui a évidemment été laissée pour compte, c'est la prise androgène, justement. Et on s'était rendu compte que non seulement ça permettait de traiter les douleurs, mais que ça diminuait les lésions. Donc on savait déjà qu'il y avait une possibilité que les lésions disparaissent. Mais par contre, non. Non parce qu'il faut que les corps soient binaires, non pour le sexisme, et aussi parce qu'on va le présenter d'une manière qui est très difficile à accepter pour une personne qui, encore une fois, a besoin matériellement de s'inscrire dans un système où elle est reconnue en tant que femme.
Donc les,
c'est-à-dire que
les...
tout d'un coup,
ouais, vas-y.
Pour une femme, ça peut être très angoissant de se dire, si on lui présente, ah oui, mais peut-être que vous aurez des poils. Bon, par ailleurs, ce qui n'est pas vrai, quand on en prend à petite dose, ça modifie très peu l'apparence corporelle, mais ça peut être une préoccupation, et une préoccupation qui en plus peut être juste, parce que matériellement, encore une fois, si tu ne te performes pas en tant que femme et que tu ne te représentes pas en tant que femme, tu ne peux pas bénéficier du système hétérosexuel, bien que ça te coûte, mais tu ne peux pas avoir ton chèque vacances non plus. Donc, c'est extrêmement compliqué là-dessus. Et pourtant, je pense qu'il y a vraiment dans la présentation quelque chose qui change, c'est qu'il y a 10 000 manières, par exemple, de s'épiler, mais là, tout d'un coup, ça devient un drame quand on doit annoncer qu'on va prendre 3 poils sur le menton. Donc, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, tu vois. Et là, je parlais avec une personne qu'on a mis en contact avec moi, qui est danseuse et qui ne peut plus danser depuis 20 ans parce qu'elle a de l'endo qui la cloue en fait, et qui me disait « Mais quand bien même je devais changer d'apparence corporelle, mais quand bien même je n'en aurais rien à foutre ?» Donc c'est vraiment important pour moi de dire ça, il faut faire pression, parce que d'une part, il n'y a pas de changement corporel à micro-dose qui soit édifiant, et ça des personnes peuvent en témoigner. Et d'autre part, en fait, quand bien même, révoltons-nous, quand bien même ça voudrait dire avoir des poils en plus, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait ? C'est si on donne vraiment le choix entre te sentir bien dans ton corps, avoir 2-3 walpes et un plus gros clitoris, c'est quoi le problème en fait? Donc voilà, non, pardon, je me suis un peu enflammée, mais je tenais, tu vois, à dire ça, quoi.
Il y a que ça à dire. Je pense que tous les gens qui sont en train d'écouter, soit ils ont en effet la tête dans leur sac en papier parce que c'est trop pour eux d'un coup, soit ils sont comme moi avec une flamme à l'intérieur du sternum en train de se dire « mais on va tellement pas vous lâcher, mais les amis, mais c'est fini, c'est la fin du vieux monde, c'est terminé. Rendez l'argent, donnez la thé. »
Donnez la thé.
Il n'y a que ça.
Surtout rendons. Parce que je pense que, enfin, pour moi, balayer devant sa porte, c'est, en fait, c'est l'essentiel, tu vois. C'est à un moment donné, il y a la vitesse une, se rendre compte à quel endroit on est dominé. Ouais, ok, on a enclenché la première. Mais si c'est pour juste dire on est dominé, c'est pas juste. En fait, ça sert à rien. C'est à quel endroit je suis dominant. Qu'est-ce que je veux changer concrètement dans mes rapports à l'autre. Pour moi, c'est enfin ouais, c'est balayer devant sa porte. Quoi. Pour moi,
bien
c'est
sûr. Essentiel. Je pense que c'est un exercice que tout le monde va pouvoir faire. En plus de s'imaginer dans quel rayon de l'hypermarché ils imaginent leur interlocutrice. où est-ce que vous vous situez? Et enfin, d'où vous parlez, quoi. Mais pas genre d'où. D'où est-ce que vous parlez? D'où tu parles? D'où est-ce que vous parlez? Comment est-ce que vous êtes dominé? Quels sont les points sur lesquels vous pouvez agir concrètement? Et sur quels aspects vous êtes dominant? Et comment vous pouvez en finir avec, enfin, partager vos privilèges? Et même si au départ, tu as l'impression d'avoir le lance-pierre et de lancer la pierre vers toi, au bout de à peu près 7-8 minutes de « Ah, ça fait mal à vraiment différents endroits », tu te rends compte que non, le lance-pierre, il est dans le bon sens et que c'est pas grave, en fait, de devenir plus violent ou violente. C'est pas, vous avez le droit, c'est OK, c'est pas grave d'être énervé. C'est la moindre des choses, en fait, quand on entend un podcast comme celui-ci. On a peut-être fait moins de blagues, mais on a un peu, grâce à toi, Juliette, remis les choses à l'heure. Et énervez-vous, foutez la merde si nécessaire, soyez gentil, mais n'hésitez pas à foutre la merde, c'est OK, c'est tout à fait OK. Et on va vous back-upper jusqu'à ce que mort s'en suive, en fait. Et c'est pas grave de mourir, parce que la vie n'était qu'une mascarade, comme on a pu se figurer depuis une heure. Je suis vraiment contente, Juliette, d'avoir pu faire cet épisode avec toi, parce que je savais que les gens, ils allaient retrouver la flamme. Et en l'occurrence, puisqu'il faut se situer, on se situe à jour 1 après le premier déconfinement en mai 2020. Et en l'occurrence, je pense que on a tellement été abêtis par les gens qui nous dominent, que ce soit en micro ou macro, que c'est nécessaire des fois de se prendre une petite pichenette derrière l'oreille en disant « peut-être qu'on peut agir dans son cercle 1 et puis ça va rayonner. » Et moi, c'est ça que ça me fait quand je parle avec toi, ça me rayonne autour et j'ai l'impression que rien n'est impossible, même quand on est en phase où on dit ça sert à rien et viens, on arrête de se faire croire que ça sert à quelque chose, mais en fait ça sert toujours à quelque chose, je crois.
Franchement, merci de ouf de m'avoir invité, parce que ouais, je pense qu'encore une fois c'est des sujets qui demandent de la publicisation et bon courage aux ingé-sons avec les bruits de machine. C'est super chaud.
J'ai quand même c'est un peu une dernière question qui est un peu un piège, parce que c'est une parenthèse en taille 48, quoi, mais cette fameuse testo là, on ne peut pas l'avoir.
Nous on s'organise, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on ne peut l'avoir que en tant que personne assignée femme à la naissance et dans un parcours de transition, où évidemment il faut justifier. Je passe les détails en termes de psychiatrisation, d'absolument vouloir revenir dans une... Que tout reçoit à l'endroit, tu vois. Mais donc, à part ça, non. Donc, du coup, nous, on s'auto-organise pour que les personnes qui ne sont pas dans une situation de transition, qui ne le souhaitent pas, puissent aussi bénéficier de nos stocks, mais qui sont très limités.
Oui, c'est ça ce que j'allais dire.
Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est pour ça que je parle de pression de la société civile, en fait. Et c'est pour ça que moi, mon cheval de bataille, évidemment, c'est la lutte contre cette binarisation et contre le sexisme. Mais je pense que là, il y a un bon levier, en fait. Il y a un levier qui est intéressant et il y a un levier qui peut vraiment, vraiment prendre, parce qu'il y a énormément de personnes, en fait, qui sont touchées par l'endo, et que voilà, ça peut marcher si les gens réclament, ça peut fonctionner. Donc,
tu penses que ça peut?
À un moment donné, si tout le monde est au courant, ce sera dur de se voiler la face et de pas faire les études que ça demande, en fait. C'est juste que je dis pas que ça fonctionnerait pour tout le monde, j'en sais rien. Juste que 3% des cas où on l'a fait, ça a fonctionné, c'est tout. Donc, c'est pas normal que des personnes ne puissent pas, qu'il n'y ait pas d'études dessus, que des personnes ne puissent pas y avoir librement accès, quoi.
Il y a quelqu'un qui dit braquer les labos. Moi, j'allais dire, on va faire une pétition sur change.org. Donc, je pense qu'on n'est pas du même signe astrologique, puisqu'on n'a pas les mêmes moyens.
Fabriquer la testo, s'il y a des gens qui sont chauds et qui ont des moyens. L'autoproduction, c'est la meilleure voie.
J'adore. Je vais aller revoir mon prof de SVT de 3e.
Oui.
Monsieur Bure.
Les cours auraient été intéressants.
C'est clair. Redites-moi le tableau périodique, là, parce que donc... Non, c'est pas ça que... Venez, on finit ce sujet-là, comme ça, après, on passe à tout ce qui est fabriquer des... Ouais, voilà, fabriquer des choses avec des culs. Je sais pas c'est quoi le mot, en fait, j'essaye de dire, mais...
Voilà, il y a quelqu'un qui dit le Breaking Bad de l'athée, ouais.
Tellement. Tellement.
C'est ça.
Moi, je veux bien prendre le camping-car en leasing, si vous voulez.
De ouf.
Mais attention, faut me le rendre flambant neuf, hein. Pas un truc qui fout le camp, pas une jante abîmée, parce que c'est moi qui paye la caution, donc...
On fera attention.
Ok, merci beaucoup Juliette, on finit officiellement cet épisode, mais on reste le temps que Joël arrive et on peut parler en off à partir de à maintenant.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.